Alors, je voudrais parler des expériences qui sont à inclure dans la méditation. Lorsque l'on dit simplement soyez présent à ce qui est, avec ce qui est là, on peut se demander à quoi faut-il être présent et qu'est-ce qui peut être là. Et dans tous les enseignements du Bouddha, il est un sutra qui est la base de tous les. Toute la tradition de méditation. Vous avez entendu le début? Bon, alors je continue. Donc il est un sutra qui est la base de toutes les méditations. Celui en général auquel on se réfère pour décrire la pratique. Qui s'appelle le Satipatthana Sutra et qui donne une vision globale un petit peu de la pratique de Vipassana. Donc il est vraiment, ce sutra est vraiment la base, le fondement de toutes les pratiques de Vipassana. Donc ce sutra s'appelle le Satipatthana. En fait, Sati est le terme que nous utilisons, que nous traduisons par présence. Pleine conscience, qui se traduit par mindfulness en anglais, quelquefois par être selon le contexte. Donc cette présence qui est sati, qui est ce que nous mettons en place dans notre méditation, est ce qui mène à vipassana. Donc on donne le nom vipassana à la pratique, mais en fait, le vipassana, c'est l'accomplissement de la pratique. Un peu comme on pourrait avoir la route de Lyon. Alors tant qu'on est sur la route de Lyon, on n'est pas encore à Lyon, donc on pourrait dire que de la même manière, on donne au chemin le nom du but. C'est pour ceci qu'on appelle la pratique de vipassana. Mais ce que nous pratiquons réellement, c'est sati, donc cette présence, présence méditative ou pleine conscience. Donc cette pratique de pleine conscience de sati à elle seule suffit pour atteindre l'éveil. Elle est aussi au cœur de la pratique zen, au cœur des traditions tibétaines du Mahamudra et du Dzogchen. Dans ce sermon, le Bouddha l'exprime dès le début et dit ceci est la voie qui elle seule permet d'atteindre la cessation de la souffrance, le nirvana. Donc elle suffit. Sans autre pratique, ceci ne veut pas dire que d'autres pratiques ne peuvent pas aider à une plus grande ouverture, à une plus grande tolérance par rapport aux expériences. Mais ces pratiques-là vont être jointes dans la pratique de la présence méditative de sati. Les autres pratiques qui vont aider, ou telles que le développement de la tranquillité, ne suffit pas en eux-mêmes, ne suffisent pas en eux-mêmes pour atteindre l'éveil. Donc il le dit dans ce sutra, la pratique de cette pleine conscience, sati, suffit elle seule pour atteindre l'éveil. Maintenant le terme satipatthana, il a été traduit pendant longtemps comme le fondement de l'attention. Et on a commencé à le traduire un peu différemment. Ça vient un peu de la structure du terme pali, parce que le sati, on comprend bien, et puis le deuxième composé qui est upadana, il peut être coupé de différentes manières. Je ne connais pas bien le pali, mais on peut le couper de différentes manières. Et tout d'abord, on avait pris cette traduction de fondement, et puis maintenant, on pense plutôt que c'est le fait de placer l'attention proche de l'expérience. Et ceci est tout à fait en accord avec la traduction tibétaine qui, elle, exprime ceci de manière très clairement. Trempa nyesha, qui veut dire placer à proximité, placer l'attention à proximité. Cette proximité, ça veut dire dans l'expérience elle-même, non pas à distance. On pourrait s'imaginer que proximité laisse supposer qu'il y a encore une distance. Mais en fait, cette proximité, c'est un peu l'approche qu'on va avoir pour que finalement il n'y ait plus de distance et qu'il y ait réellement intimité avec l'expérience. Donc ce que nous explorons tout au long de notre pratique, c'est cette qualité d'intimité dans chaque expérience. Cette intimité, à nouveau, c'est un terme qui demanderait à être défini, ou en tout cas, s'agirait d'en donner un peu le goût par d'autres explications, ce qu'on a déjà fait et qu'on fera par la suite. Donc le fait de placer la pratique de sati, c'est de placer cette attention, cette présence très à proximité des expériences. Et maintenant, dans ce sutra, on détermine quatre domaines d'expérience où cette attention peut être placée. Et ceci à des fins tout à fait pédagogiques pour qu'on comprenne bien où on peut placer cette attention, cette présence. Comme nous allons le voir, en fait, elle inclut toutes les expériences. Mais c'est intéressant de pouvoir déterminer dans quel type d'expérience on est pour être plus attentif à ce qui se passe dans l'instant. Donc le premier domaine, c'est le domaine du sensible, donc qui inclut évidemment tout ce qui est perçu par les sens. On peut dire que tout d'abord, dans la pratique, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait être attentif à l'objet de la perception. Je reviens à l'exemple du son. On pourrait être attentif au son qu'on entend. La personne qui tousse, ou être attentif à des bruissements, ou au bruit d'une voiture qu'on aurait à l'extérieur. Ça, c'est la première chose. On pourrait prêter attention à cet objet, l'objet des sens. Mais ici, on est encore à distance. Quand on va se rendre de plus en plus disponible à l'audition du son, il y a l'audition, le fait d'entendre cette personne qui tousse, ou toute cette personne, et puis lentement, on va s'en approcher, ce travail de sati est de s'en approcher pour que finalement, il y ait cette unité dans l'expérience elle-même, et à ce moment-là, il n'y a plus que l'expérience de l'audition, sans qu'il y ait scission entre un méditant, une personne qui fait l'expérience, et un objet de l'expérience. Un auditeur est quelque chose qui est entendu, il y a là l'unité dans l'expérience. On peut dire qu'à ce moment-là, on peut vraiment parler de sati. Avant, on est dans l'approche. Mais qui est-ce que nous pratiquons? On ne va pas éliminer toutes les expériences parce qu'on n'est pas purement dans cette qualité de sati. Au contraire, nous pratiquons ceci pour développer cette sensibilité. Donc ici, je l'ai décrit par l'audition d'un son, de la même manière dans la sensation corporelle. Tout d'abord, on peut imaginer qu'on a une image de la zone du corps. Ensuite, une sensation, on commence à ressentir un peu plus l'image, on va ressentir un peu plus le corporel de l'image, c'est-à-dire dans le fond, cette zone-là, qu'est-ce qu'elle a comme poids, comme température, quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience elle-même. Et puis lentement, on va s'approcher pour qu'il y ait finalement plus que cette expérience corporelle, sans qu'il y ait plus d'images ou de notions qui viennent se rajouter. À ce moment-là, on est dans cette proximité que décrit la pratique de Satipatthana. Donc nous sommes constamment dans cette disponibilité pour être dans cette intimité. Nous avons tendance à avoir un rapport à nous-mêmes qui est un rapport extérieur. Dans le fond, nous savons très bien étudier les choses qui se passent à l'extérieur. On peut même transmettre cette manière d'observer avec beaucoup de précision quelque chose. Avec cette distance qui est toujours maintenue quand il y a un observateur, une observatrice qui observe quelque chose. Mais là, dans l'expérience méditative, il ne s'agit plus d'observer, et nous n'utilisons pas le terme observer avec Patricia. Observer maintiendrait une sorte de distance, mais c'est de ressentir dans l'unité de l'expérience. C'est une sensibilité que nous développons, c'est pas juste une sorte de décision. Je ne veux pas maintenir de distance, je veux simplement être dans l'expérience. Ce n'est pas une décision. Encore faut-il supposer qu'il soit possible d'aborder une expérience sans nécessairement mettre toute l'énergie dans l'agent. dans l'énergie, dans le fait de vouloir regarder plus attentivement, de vouloir entendre plus attentivement. Si nous mettons l'énergie là, alors à ce moment-là, nous maintenons toujours cette distance. Donc c'est en étant plus sensible, plus détendu dans l'expérience elle-même, qu'à ce moment-là, cette unité va pouvoir être vécue, éprouvée. Donc dans toute expérience, dans le gustatif, on peut explorer lors du repas, c'est extrêmement intéressant, là, cette expérience du goût. L'expérience du goût peut être extrêmement profonde. Alors, tout d'abord, évidemment, si on met un aliment dans la bouche, d'abord on en fait l'expérience de sa dimension tangible. Ce qu'on sent d'abord, c'est sa température, sa texture. Est-ce qu'il est humide ou sec? Est-ce qu'il est froid ou chaud? Mais ça, c'est pas le goût. Ça n'a rien à voir avec le goût. On peut même avoir encore la couleur qu'on vient de voir. Et tout d'un coup, quand on commence, on le met dans la bouche et on commence à le détruire, à le broyer. Et quelque chose qui est libéré là et qui est une expérience incomparable, qui est celle de, dans le champ de l'expérience, surgit quelque chose de très étonnant qui est le goût. Cette manière de goûter, on pourrait tout d'abord dire, oh là, c'est sucré, c'est salé. Notre vocabulaire en général pas très sophistiqué par rapport à la richesse de l'expérience du goût. Mais si on essaye d'être aussi plus proche de cette expérience-là, par moments, c'est comme si le goût se goûte lui-même. Il y a cette unicité dans l'expérience. Et à ce moment-là, ce que nous connaissons dans cette expérience, c'est pas tellement le goût de cet aliment, c'est nous-mêmes. Nous faisons l'expérience de nous-mêmes dans cette expérience-là, dans ce contexte-là, de goûter un aliment. Donc essayez, pendant les repas, non pas en forçant ou par discipline, mais de se donner complètement à l'expérience de goûter un aliment. Et l'expérience du goût par rapport à l'expérience de manger est assez courte. Il y a toute une période d'approche où il faut broyer cet aliment pour qu'il libère le goût. Et puis tout d'un coup, le goût surgit et puis il disparaît. Donc en général, on en reprend un petit peu pour refaire l'expérience. Et c'est mieux, parce que si on n'a pas envie, ce n'est pas bon signe. Donc voilà, c'est une bonne chose. Donc on peut très bien explorer de manière profonde cette expérience de goûter. On pourrait faire l'expérience claire de l'absence de moi dans le fait de goûter un aliment. Ce qui est quand même assez extraordinaire. On a la chance de manger, et en plus on peut faire une expérience méditative profonde. Donc pourquoi s'en priver? Donc pendant le repas, on peut explorer ceci, aussi par moments être dans l'audition, comme je l'ai déjà mentionné, il y a une sorte de concert de couteaux, de fourchettes. C'est assez extraordinaire comme expérience auditive. Pour le faire, on peut imaginer que certains compositeurs modernes aient fait une symphonie pour 12 couteaux et 3 fourchettes. Il y a bien qu'on fait pour les portes qui grincent. Pourquoi pas pour les couteaux et fourchettes? Donc être dans cette expérience de l'audition avec toute sa richesse. La vision aussi, on peut l'explorer. Non pas dans le sens d'être fasciné par ce qu'on voit, mais par l'expérience de voir. On pourrait dire que l'approche est un peu différente que celui de l'audition. Dans l'audition, on a presque l'impression d'une distance qui s'amenuise. Dans la vision, c'est un peu différent, c'est une sorte de centrage où la vision se passe en nous-mêmes, où nous nous trouvons. Il y a une conscience. La statue de Bouddha dernier mois ne voit rien, n'a aucune expérience de la vision. Et ce que nous voyons, comme je l'ai déjà mentionné, c'est spécifique à la position où nous sommes. Pas deux personnes voient la même chose. Aussi spécifique certainement à la qualité de nos yeux, mais sans compliquer les choses, simplement nous voyons quelque chose de différent et immédiatement nous construisons la salle de yoga. Donc nous avons éliminer tout ce qu'il y a de spécifique dans cet instant de la vision. Quand on dit la salle de yoga, à quelle heure de la journée est-ce que c'est la salle de yoga? Alors que là, dans l'expérience même, elle est particulière à cet instant-là, à ma position. Donc on peut aussi s'ouvrir à cette expérience de la vision comme intimité, comme quelque chose qui est révélé à soi-même. La conscience visuelle révèle la conscience à elle-même. Donc toute expérience sensorielle est à intégrer dans la méditation. Et si on a l'impression qu'on en fait une sorte de sélection, je vais explorer un peu ceci, un peu cela, mais par moments, quand on est dans le processus méditatif, alors il y a moins cette sélectivité. Et naturellement, quand une expérience sensorielle surgit, alors on peut avoir cette qualité de présence, sans que on doive décider avant. Mais tout d'abord, il s'agit d'explorer en se donnant des zones d'exploration. Donc ceci est le premier domaine d'expérience, un des plus riches, celui qu'on prend aussi comme point d'ancrage parce qu'il est le plus simple et il est toujours disponible. Les sensations corporelles sont toujours disponibles, l'audition aussi, la vision aussi si on voulait ouvrir les yeux, même dans la pénombre. Le deuxième domaine d'expérience, qui sont aussi le lieu de la méditation. Ce n'est pas des expériences qui viendraient s'ajouter à la vision et autres, audition et autres expériences sensorielles. C'est une qualité de l'expérience sensorielle ou de la pensée aussi. C'est une caractéristique de l'expérience auquel on peut être attentif. Et cette caractéristique de l'expérience, c'est sa qualité agréable, désagréable ou neutre. Chaque expérience est éprouvée soit comme étant agréable, comme étant désagréable ou neutre. Et en fait, c'est exactement ce qui nous fait réagir. La valeur ultime pour nous dans l'existence, c'est ça. Agréable, désagréable ou neutre. Même si on paraît extrêmement sophistiqué, finalement ça revient à ceci. L'endroit où on choisit de s'asseoir dans le réfectoire, ce qu'on choisit de manger, c'est à chaque instant, c'est le critère final. Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? Et si c'est neutre, il y a un désintérêt de la lassitude. Et dans le fond, ce qui est ennuyeux dans la douleur corporelle, c'est que c'est désagréable. Ça paraît un peu bizarre, dit comme ça. C'est normal que c'est désagréable, mais lorsqu'on est dans l'expérience, on peut sentir une douleur corporelle et on se rend compte que c'est désagréable et c'est ce qui me fait réagir. Là, on est un peu plus en intimité avec l'expérience elle-même, avec ici cette qualité particulière d'être désagréable. Il se peut aussi parfois qu'il y ait des expériences un peu vagues, un peu de torpeur, de somnolence, de fatigue. On ne sait pas bien ce qui se passe, de confusion. Et quelquefois, on cherche, qu'est-ce qui se passe en cet instant? Je ne sais pas vraiment, je voudrais bien être présent à ce qui se passe, mais ce n'est pas vraiment de la somnolence, ni vraiment de la fatigue. Mais on peut toujours se demander, est-ce que c'est agréable ou désagréable? Et si je détermine, tiens, c'est légèrement désagréable, à ce moment-là, je peux être en contact avec cette dimension de l'expérience. Ça me met totalement là avec ce qui est ici, cet aspect désagréable. C'est un aspect très important de la méditation puisque c'est là que nous allons réagir à ceci avec désir, aversion et confusion. Quand c'est agréable, nous réagissons avec désir et attachement. Désagréable, nous réagissons avec aversion. Quand c'est neutre, avec confusion. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas de curiosité. et d'être attentif à cette dimension des expériences est extrêmement enrichissant. Et lorsqu'on peut se rendre compte que dans la méditation, on peut très bien aussi être ouvert à quelque chose de désagréable, et que c'est même pas si désagréable que ça, qu'il y avait une sorte de réaction machinale avant que vraiment il y ait un choix, et que tout d'un coup on s'ouvre, et qu'il y a une autre dimension bien plus riche que ce premier aspect d'être désagréable. Quelque chose qui dépasse ceci. Et à ce moment-là, le fait de sentir qu'on peut être libre par rapport à ces dimensions agréables ou désagréables, ceci est une grande découverte. Le troisième domaine, c'est le domaine de la conscience. Alors ces classifications en quatre domaines, évidemment c'est un peu arbitraire où on met les différentes expériences. Nous allons voir surtout en ce qui concerne le troisième domaine et le quatrième domaine. Mais peu importe, c'est pour essayer d'englober toutes les expériences, aucune n'étant hors du champ de la méditation. Dans le domaine de la conscience, on peut ici inclure les pensées et les images mentales. Alors, les pensées sont aussi le lieu de la méditation, les images mentales aussi. Quand je dis le lieu de la méditation, je ne dis pas que c'est l'outil de la méditation, c'est-à-dire ce n'est pas par la réflexion qu'on médite. Il y a beaucoup de méditations où on utilise la réflexion, par l'homme d'en doute, et des méditations extrêmement riches, mais dans ce cadre ici, ce n'est pas, on n'utilise pas la pensée pour réfléchir, pour comprendre, pour organiser. Donc la pensée est quelque chose d'extrêmement extrêmement puissant. Puisque tout dépend d'elle. Construction de ce temple, construction des routes qui nous a amenés ici, la planification pour venir ici, tout dépend de la pensée. La pensée enferme aussi. On peut voir dans le fanatisme comment la pensée enferme de manière beaucoup plus solide que les murs les plus épais. Combien on peut s'enfermer dans les croyances. Donc la pensée est quelque chose d'immensément riche. C'est bien pour ça qu'elle est aussi séduisante. Mais il est une question... qui semble fondamentale avant d'utiliser la pensée, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle est. C'est quoi une pensée? C'est une drôle de question. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? Pas penser ce que la pensée c'est ceci, c'est cela. Il y a des gros ouvrages qui déterminent ce qu'est pensée. Qu'est-ce qu'on fait quand on pense? Toute la philosophie utilise la pensée comme outil en se demandant très rarement. Mais qu'est-ce que c'est que la nature d'une pensée? C'est d'autant plus important de le réaliser que ça a tellement d'influence, d'impact. J'ai parlé un peu ce matin des images mentales. Donc, l'image mentale n'est qu'une manière qu'a la conscience de se manifester. Mais c'est jamais un objet. L'image n'est pas à distance, l'image n'est pas autre chose que la conscience. Et pourtant, lorsque nous sommes fascinés, lorsque nous réagissons, lorsque nous sommes énervés par rapport à la pensée d'une personne, c'est bien qu'à ce moment-là, nous prenons cette pensée, cette image mentale, pour une personne. Il n'y a pas de quoi s'énerver pour toutes ces productions intérieures. Et pourtant, nous prenons pour des personnes. Donc, à ce moment-là, on peut se trouver dans un état terrible en sortant d'une salle de méditation parce qu'on a pensé pendant 45 minutes, on a eu beaucoup d'arguments avec une personne. On peut être complètement énervé. Cette personne n'était pas là. Si on prend le téléphone, on l'appelle, on lui dit « Dis donc, il faudrait quand même qu'on finisse cette conversation. » Elle va dire « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Ou bien vous l'appelez pour lui dire « Écoute, c'est la dernière fois que tu viens me déranger dans ma méditation. » Ça paraît absurde. Ça paraît absurde. Et pourtant, nous donnons bien un degré de réalité à ces images mentales. Donc de reconnaître que l'image mentale d'une personne n'est pas une personne. Vous pouvez prendre ce slogan si vous voulez, mais l'image d'une personne n'est pas une personne. L'image d'un lieu n'est pas un lieu. L'image d'un autre temps n'est pas un autre temps. L'image d'hier n'est pas hier. L'image de demain n'est pas demain. Hier et demain n'existent que sous forme d'image. Donc prendre conscience de ceci est aussi libérateur. J'ai évoqué une manière de questionner un peu ce matin. Ici, nous utilisons la pensée pour attirer notre attention sur certains aspects. Et ensuite, nous essayons de nous rendre compte dans l'expérience elle-même. Mais c'était à quelle distance se trouve cette image mentale? Si j'imagine une personne, à quelle distance est-ce qu'elle est? On verra que c'est très bizarre. Ce qu'on essaie de dire, ça paraît, elle est peut-être là, mais je ne sais pas vraiment où elle est. Et quelle est sa dimension? Grandeur nature? Alors, il faut qu'elle soit plus loin parce que ça ne va pas, non? Elle est peut-être seulement la moitié, le tiers. Quand on commence à essayer de déterminer ceci, on se rend compte que ça ne joue pas. Et aussi que l'image mentale d'une personne est toujours générale. Elle n'est pas tellement précise. Si tout d'un coup, vous allez dire, mais tiens, quelle chaussette elle a mis aujourd'hui, où il a mis? Essayez de regarder, voir les chaussettes, vous n'allez jamais rien voir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une personne. On peut seulement découvrir dans l'image mentale ce qu'on y met. Et jamais on sera surpris de ce qui apparaît. Vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un et vous tromper. On peut se tromper dans le souvenir. Mais si vous essayez de vous imaginer une personne que vous connaissez, dire « Ah non, je me suis trompé. C'est pas celle-ci que je veux, c'est une autre. » L'image mentale est déjà une intention. J' ai l'intention de convoquer telle et telle personne ici. Alors on la convoque dans l'image mentale. Mais il n'y a rien, il n'y a personne. Et on est là à s'énerver, ou à s'exciter, ou à s'émerveiller. Toutes les émotions qui vont avec ce cinéma intérieur. Donc l'image mentale n'est rien d'autre que la conscience qui se manifeste sous un aspect particulier. Alors ici, on est en train d'essayer d'enlever cette fascination, parce que tant qu'il y a fascination, nous la traitons comme un objet, comme une personne. Et si nous la traitons comme un objet, comme une personne, on ne peut pas avoir cette intimité à l'expérience elle-même. Il y a une confusion qui empêche ceci. Mais maintenant, dans l'expérience de l'imagination, imaginez cette personne-là, à ce moment-là, on peut faire l'expérience aussi de cette image mentale comme étant présente, comme révélant la présence exactement comme l'audition. Ou tout d'un coup, dans cette image mentale, ce qui est révélé, c'est une conscience imaginante. Sans qu'on puisse forcer les étapes, tout d'abord il s'agit de ne pas s'attacher à l'aspect concret de ce que nous imaginons, et lentement ceci peut apparaître. De la même manière pour la pensée. La pensée n'est rien d'autre que la conscience qui se manifeste sous cette forme-là. Nous avons l'impression que les pensées ont quelque chose d'objectif. C'est la pensée qui surgit sous l'aspect de ce sens qu'a la pensée. Nous reviendrons certainement à d'autres reprises sur la pensée. Donc si nous pouvons être dans la pensée comme point d'ancrage à ce moment-là, comme simple présence, sens qui se manifeste, présence qui se manifeste sous cet aspect du sens, alors chaque pensée est une expérience de présence extrêmement claire. Il n'y a pas de penseur différent de la pensée, il y a un penseur qui penserait la pensée, ni un penseur qui aurait besoin de connaître la pensée. La pensée, elle est consciente de son propre sens. comme la flamme d'une bougie s'allume elle-même. Pas prendre une lampe de poche pour voir si la bougie est allumée. De la même manière, la pensée est sa propre conscience. Donc nous reviendrons sur ces aspects-là. C'est un peu plus difficile, la pensée est moins franche puisqu'elle n'arrête pas de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Alors que les domaines sensoriels, eux, ils sont plus honnêtes. Le son, il ne se fait pas passer pour autre chose. C'est un son, les formes, les couleurs, mais la pensée, c'est là sa force, justement. C'est de pouvoir représenter ce qui n'est pas là. C'est son immense richesse. Mais c'est là aussi qu'il est plus difficile d'être au clair avec ce qui se passe. Quatrième domaine, le domaine des dharmas. Dharma est un terme qui veut dire tous les phénomènes existants. Il y a beaucoup de sens dans dharma, mais ici ça veut dire tous les phénomènes existants. Donc ce qui veut dire que dans le quatrième domaine, nous incluons tout ce qui n'a pas été inclus jusque-là, toutes les expériences. Mais aussi, il y a une liste spécifique. Les facteurs d'éveil, les facteurs positifs qui sont décrits ici. Mais on pourrait mettre dans cette catégorie les émotions et les états mentaux. Émotions positives ou négatives, joie, tristesse, sympathie. Et les états mentaux. Les états mentaux, ici, on veut désigner la fatigue, la somnolence, quelque chose qui n'a pas un objet particulier. On peut dire que l'émotion peut tourner vers quelque chose. On peut être en colère contre ou désirer ceci. Alors, l'état mental, il est la tristesse, pas la tristesse, pardon, la somnolence, la fatigue, le calme, la tranquillité. Pas d'objet particulier. Pour mettre une distinction, si vous voulez, c'est une question de vocabulaire, mais dans la méditation, nous avons toujours la même attitude, d'être parfaitement en contact avec ce qui est là. S'il y a de la joie, d'éprouver la joie avec la plus grande présence possible. Sans s'y identifier, sans aussi la saisir ou la chosifier. Donc rien n'est exclu ici. Peut-être qu'on pourrait dire que ce qu'on ne verrait pas dans cette liste, c'est le sommeil profond, l'évanouissement des expériences de ce type-là. Mais autrement, aucune expérience n'est à l'extérieur du champ de la méditation. Donc parfois, on a l'impression dans notre pratique... Je ne peux pas méditer, c'est comme s'il manquait quelque chose. Il n'y a pas d'expérience, je ne peux pas méditer. Alors quand je ne peux pas méditer, qu'est-ce qui se passe? Peut-être là, dans une attitude de soit de frustration, de découragement, donc il y a là quelque chose. Pour qu'il y ait découragement, il faut bien qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait une conscience, ou qu'il y ait lassitude, ou qu'il y ait ennui. Donc toutes ces expériences-là sont des expériences à inclure dans la méditation. Elles sont extrêmement riches. Lorsqu'on peut découvrir qu'on peut être parfaitement présent à l'ennui et que ça devient quelque chose de fascinant, alors on n'est plus assujetti à l'ennui. L'ennui n'est plus un problème. Lorsqu'on réalise qu'on peut être parfaitement présent dans la somnolence, alors on n'a pas besoin de se battre contre la somnolence. Je ne dis pas que c'est simple. Fallait juste le dire dès l'abord. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas dit dès le début qu'on pouvait être présent à la somnolence alors que ça fait 3 jours que je somnole? Non, c'est pas une question de choix. Mais si on pense que c'est en soi-même un obstacle, alors on ne pourra jamais l'explorer. Mais si c'est présenté plutôt comme un défi, tiens, c'est possible d'être présent, parfaitement présent dans la somnolence, donc essayons d'explorer ceci. Et parfois, ça joue pas. Dans ma pratique, c'est comme ceci. Parfois, ça joue pas, je somnole, je suis perdu dans la somnolence. Et parfois, je peux être parfaitement présent dans la somnolence. Ce pas juste parce que j'ai oublié d'être présent dans la somnolence, c'est que comme la sensibilité n'est pas là, où il y a un peu de réaction, je n'ai pas cette disponibilité qui fait qu'à ce moment-là, je subis la somnolence. Et à d'autres moments, je peux être parfaitement présent dans la somnolence. Donc au moins comme champ d'exploration. Et je trouve la somnolence, hein, non pas que j'en ai tellement d'ailleurs, j'en parle tellement, croire que je passe mon temps à somnoler, puis que c'est mon point d'ancrage, mais non, pas tellement ceci. Mais pourquoi ça m'intéresse tellement la somnolence? D'abord que très souvent on veut donner des antidotes. La plupart du temps, la somnolence, c'est quelque chose d'un peu marginal, il faut tout de suite lui régler son compte. Et en plus, je trouve que c'est tellement révélateur quand on peut découvrir qu'on peut être présent dans la somnolence, parce que c'est exactement ce dont il s'agit dans d'autres expériences plus difficiles, telles que la tristesse, l'angoisse et autres. C'est la même sensibilité qui est en jeu, mais la somnolence, c'est moins dramatique. Donc voilà pourquoi on peut explorer ceci. Donc, dans ce Satipatthana Sutra, décrit tous ces domaines d'expérience, assez brèves, il faut dire, ils sont nommés. Ils montrent comment, étant parfaitement présent dans chaque expérience, alors on est libre de saisir, et on est parfaitement non conditionné à ce moment-là, si on a cette disposition juste dans l'expérience. Mais il y a aussi quelque chose qui est mentionné que je trouve extraordinaire, c'est que dans ce sutra-là, il est mentionné aussi toutes les activités, hein, les mouvements, le fait de marcher, de tourner la tête, de tendre le bras. Il est dit dans ce sutra, lorsqu'un méditant, une méditante marche, il sait, il est conscient de marcher. Lorsqu'il ou elle tourne la tête, il est parfaitement conscient, pleinement conscient de tourner la tête. Et ainsi, tous les mouvements de boire, de manger, de se laver, d'aller aux toilettes, il a conscience de chaque mouvement. Et que ceci soit le chemin qui permette l'éveil, je trouve ça extraordinaire comme intégration. Qu'on ait les activités les plus simples de la vie quotidienne, que ceci soit le chemin de l'éveil. Non pas des choses ésotériques, des choses extrêmement compliquées, non. Cette activité-là, de marcher, de tourner la tête, dans cette action-là, il est possible de réaliser toute la richesse qui permet l'éveil. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de rupture dans la pratique du matin jusqu'au soir, puisqu'il y a toujours quelque chose qu'on fait. Ici, je voudrais attirer votre attention sur un aspect, c'est qu'on a l'impression souvent que pour être présent, il faudrait une position particulière. Il faudrait être attentif à quelque chose de particulier. Je prends un exemple. Si j'imagine que je suis dans une sorte de rêverie, ou de vague somnolence, ou de vague torpeur comme ceci, alors tout d'un coup je le réalise, et alors pour être présent, je vais revenir à l'abdomen. Comme si la présence se situait dans l'abdomen, ou dans la poitrine, ou dans une autre expérience, dans la respiration. Mais il n'y a pas plus de présence dans la respiration, dans l'abdomen ou dans toute autre expérience. Donc si je suis dans cette... Je me surprends tout d'un coup d'être dans cette vague torpeur. La question est, où est-ce que je suis dans cette expérience-là? Où se situe ma présence dans cette expérience-là? Autrement, on a l'impression qu'il y a quelques expériences, quelques zones qui sont présentes et les autres ne le sont pas. Une sorte de hiérarchie. J'ai décrit à plusieurs reprises comment dans une rencontre de méditants, alors que nous attendions l'enseignant, c'est extraordinaire. Tout le monde s'est mis dans une position comme ça. Comme si pour être présent, il fallait être comme ça, les yeux fermés ou les yeux ouverts, la bouche ouverte, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est tellement surprenant. Donc, dans toute activité, si je suis dehors en train de faire la méditation marchant, et mon attention est attirée, je ne sais pas, vers un arbre, j'ai entendu un bruit ou le chant d'un oiseau, et que je tourne la tête, je peux être totalement présent dans ce mouvement et aussi dans le fait de regarder. Être totalement là, je n'ai pas besoin tout d'un coup de me dire, attention, c'était l'audition ou c'est les pas, etc. Donc dans chaque expérience, où est-ce que nous trouvons, même quand il semble que l'expérience soit floue, où est-ce qu'il y a ma présence dans ce cas-là? Et ainsi, la présence peut être ouverte dans chaque expérience. Il n'y a pas une, deux expériences où nous sommes présents, toutes les autres, nous ne sommes pas présents. Alors moi, je suis présent quand je suis dans l'abdomen, quand je mange, j'ai ajouté ça, c'est bien mon catalogue, et quand je marche sur le voilà, les autres, ce n'est pas possible parce que voilà, je ne peux pas quand même manger quand je vais au réfectoire, ni être toujours avec l'abdomen. Non. C'est une manière de faire une sorte d'objet de la présence, alors qu'elle est toujours là, dans chaque expérience. Donc essayez d'explorer ceci, qu'il y ait une sorte de fluidité, de simplicité, non pas, pas par discipline. Moi, je me rappelle au premier cours de 3 mois, voilà, on m'avait dit, voilà, continuité, il faut être... Alors évidemment, je me donnais des ordres du matin jusqu'au soir. Voilà, alors avant d'arriver à la porte, tu ouvres la porte, alors je tendais le bras, alors tu appuies sur la poignée, voilà. C'était évidemment assez pénible. Qui n'a pas beaucoup aidé la présence. Mais une manière de nommer chaque expérience, mais de la nommer presque avant, comme si c'était une sorte de contrôle, comme si je me pilotais, comme ça, comme une sorte de modèle réduit. Donc ici, ce qu'il y avait de confus, d'ambigu, en tout cas dans ma manière de comprendre l'instruction, c'est que peu importe si je vais et j'ouvre la porte, si à ce moment-là je suis dans la rêverie, je peux être tellement très bien présent à cette rêverie. Non, il faut que je revienne là. Et si je suis présent à la rêverie, je ne vais pas ouvrir la porte de manière fausse. Parce que je serai quand même totalement là. Donc posez-vous la question parfois, mais où est-ce qu'est ma présence? Où est-ce que je suis en cet instant? Où est-ce qu'est ma conscience en cet instant? Non pas qu'elle est à quelque part, mais dans quelle expérience elle est là? Et ainsi, dans la méditation en marchant, par exemple, on peut vraiment faire l'expérience des 3 caractéristiques, de l'impermanence, de l'insatisfaction lorsqu'il y a la confusion et de l'absence de moi. Il y a cette manière tout d'un coup d'être là, de marcher de manière totalement impersonnelle et totalement présent. Non pas parce qu'on nie quelque chose, mais parce qu'on ne rajoute rien à l'expérience. Il y a cette possibilité. Marcher, ce n'est pas juste une manière de passer le temps entre 2 assises. Et c'est important que vous ameniez une certaine curiosité. Quelquefois, la marche est fatigante, ennuyeuse. Alors essayez simplement, qu'est-ce qui se passe quand vous tournez la tête pour regarder la forêt ou la vallée. Vous pouvez très bien passer un moment d'exploration. Tiens, là, il y a quelque chose. Comme dans un laboratoire, tiens, là, c'est intéressant. Dans ce mouvement-là, ce mouvement de la main, je sens que je suis totalement là. Donc, amenez cette curiosité qui n'est pas seulement dans la marche. Je lisais dans les biographies des moines de la forêt en Thaïlande. Les moines, lorsqu'ils pratiquaient la méditation en marchant, et quelquefois pendant une grande partie de la nuit, je me souviens d'un grand maître qui décrivait comment, alors qu'il était en train de faire sa méditation en marchant, tout d'un coup il a vu un tigre qui était juste assis à côté du chemin où il faisait sa méditation en marchant. Alors, il a continué, évidemment, parti en courant, il n'avait aucune chance, donc autant continuer. Mais, donc il a continué, et puis le tigre est resté là un moment, et puis est parti. C'est difficile à imaginer ceci. Mais si, il y a vraiment cette qualité complètement impersonnelle dans la marche, à ce moment-là, ça peut avoir un certain sens. Autrement, évidemment, on peut imaginer la frayeur, en tout cas. Un autre maître décrivait comment, alors qu'il méditait dans une grotte en Thaïlande, un tigre est venu se mettre devant la porte de la grotte, à l'entrée. Alors, le lendemain, il voulait aller faire sa tournée d'aumône parce qu'il fallait qu'il mange. Quand même, avec le tigre, il a quand même supporter de ne pas manger pendant la journée, mais comme le lendemain il était là, il a passé à côté sans problème. Peut-être le tigre était plus étonné que lui encore. Donc, cette manière de se donner complètement à ceci, n'ayez pas peur, il n'y a pas de tigre ici, il n'y a pas de danger. Donc, seulement le verglas parfois qui peut aussi être ennuyeux, mais ce n'est pas le cas pour le moment. On trouve des descriptions dans la tradition zen de ceci et dans la tradition tibétaine aussi. Quand on demandait à un maître zen quelle était sa pratique, eh bien, il disait, je coupe du bois, je vais chercher de l'eau et je mange mon riz. Voilà. Alors évidemment, on dit, ben, moi je fais la même chose, bon, je peut-être pas du riz, mais voilà, c'est la manière d'être totalement dans ceci qui en fait une pratique profonde. Trouve aussi dans la tradition tibétaine le fait de laisser les expériences sensorielles comme elles sont, dans leur état naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas rajouter d'objets et de sujets. Comme l'exprime un maître tibétain, il ne faut pas chercher à l'extérieur, ne pas chercher à l'intérieur, mais laisser l'expérience reposer sur elle-même. C'est bien ce dont il s'agit. Pour terminer, je voudrais raconter une histoire d'un maître de cérémonie du thé au Japon qui marque cette qualité de présence aussi. Ce maître de cérémonie du thé au Japon devait se rendre de Tokyo à Kyoto. Son maître l'envoyait donc voir le shogun et son maître qui était un grand samouraï. Il s'est dit, mais tu risques d'avoir des ennuis en chemin, donc prends mon armure de samouraï, comme ça tout le monde te laissera tranquille. Alors il cheminait, ce maître de cérémonie du thé, et à un moment donné, il traversait un petit pont, et là, il a rencontré un samouraï. Et par maladresse ou par crainte, il a bousculé un petit peu le vrai samouraï. Alors le vrai samouraï a tout de suite tiré son sabre, j'imagine que c'est comme ça que ça fait un samouraï. Et puis, évidemment, il voulait en découdre. Et le maître de la cérémonie du thé, il lui a dit, écoute, tu peux me tuer, mais je ne suis pas un vrai samouraï. Il lui a raconté son histoire. Et le samouraï lui a dit, écoute, moi je veux rien savoir, tu as l'habit d'un samouraï, tu dois te comporter comme un samouraï, mais je te donne jusqu'à demain matin, et là nous allons nous rencontrer, et conduis-toi en vrai samouraï. Alors le maître de cérémonie du thé, il est allé voir le maître des arts martiaux de la petite ville tout proche, et puis lui a expliqué son histoire. Et le maître des arts martiaux lui a dit, mais bon, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta fonction? Il a dit, ben, moi, je suis maître de cérémonie du thé. Alors, il a dit, d'accord. Il a dit, tu vas me montrer comment tu fais. Et alors, ce maître de cérémonie du thé a fait la cérémonie en étant totalement présent. En plus, c'était peut-être la dernière, sûrement la dernière. Donc, il a été totalement là. Et on peut imaginer, dans une qualité de présence à chaque instant, parce que c'est quand même ça la qualité d'un maître de cérémonie du thé. Et le maître des arts martiaux l'a regardé et lui a dit, ben, c'est très simple, demain quand tu rencontres le samouraï, tiens ton sabre exactement comme tu tenais le pot à thé. Alors, le lendemain, le maître de cérémonie du thé a rencontré le samouraï, il a tiré son épée, donc totalement présent, totalement là. Et quand le samouraï l'a vu, il a remis son épée, il s'est incliné. Il lui a dit, je te demande pardon, mais je ne peux pas me battre contre un adversaire comme toi, il n'y a aucune faille. Donc ici, on a bien le sens que il y a quelque chose dans la rigueur de cette qualité de présence qui fait le fait d'être insaisissable et d'être totalement là. Voilà, donc explorer un petit peu les différents aspects de l'activité, et toutes sont riches, on ne peut pas dire que c'est celle-ci qui va être enrichissante. Quelquefois, on se surprend dans les déplacements, il y a quelque chose, un petit mouvement qui nous parle particulièrement, qui révèle quelque chose d'important, cette qualité de présence que l'on peut avoir dans toute situation.